ce qui m'ennuie beaucoup, ce qui m'emmerde beaucoup avec l'immobilier, c'est qu'il met à mal ma théorie du déracinement général. Parce que je me dis, tu vois, je dis d'un côté, tu vois, tout est plus ou moins interchangeable. Ta propriété s'estompe de plus en plus. Parce que tu as culturellement les biens, je dis de manière générale et forcément du coup très caricatural, hein. Les biens culturels, la musique se stream, les vidéos, nanana, le téléphone lui-même n'a plus beaucoup d'importance, matériel ça, de moins en moins. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'héritage qui commence à. Je ne serais pas très étonné qu'on abolisse l'héritage bientôt, sur autre chose. Parce que c'est cette logique-là, je pense, tu vois, de flux, tu vois, un petit peu. Ikea, tout ça, enfin, les trucs qui ne sont pas faits pour durer plus de 2 générations, quoi. D'un autre côté, les jeunes achètent quand même. Du coup, je suis gêné.
C'est un peu ce que je disais avec la voiture aussi, ou la voiture quelque part. Si les gens sont si attachés à la bagnole, et si attachés à l'idée de bagnole, et si opposés à toute politique qui remet en cause la voiture, c'est parce que la voiture, c'est souvent la propriété des gens qui n'en ont pas. C'est la seule propriété des gens qui ne peuvent pas avoir d'autres propriétés.
J'ai négligé ça, tu vois, le côté. Souvent, effectivement, la voiture, c'est aussi ce safe space, un petit peu. C'est un sanctuaire.
Et tu attaques le seul endroit, parce que c'est aussi un lieu, la voiture, c'est pas seulement un objet.
C'est tout à fait un lieu. C'est tout à fait un
Et tu
lieu.
attaques donc le seul lieu qui appartient à cette personne.
Ah, c'est un très bon point, ça.
Et pour moi, c'est le frein majeur à toute politique visant à réduire la bagnole et à aller vers des systèmes beaucoup plus socialisés de transport. Et c'est ce qui potentiellement va nous coûter l'avenir de l'humanité, quoi. Parce que si on n'arrive pas à enlever des voitures de la route, on pourra pas remplir nos objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc bon, petit détail.
Tu veux dire que quelque part c'est un frein à mien.
C'est nul, mais j'accepte.
Merci, merci beaucoup, je me sens validé.
Mais c'est le truc qui m'embête aussi un peu avec la musique. Hein. Parfois, j'ai un peu du mal à comprendre les lecteurs quand ils s'agacent contre le streaming, quand ils s'agacent contre les abonnements, parce que l'argument, c'est souvent « Ah oui, mais moi, avant, je pouvais acheter pour posséder. » Mais tu possédais pas. Tu n'as jamais possédé de la musique, tu n'as jamais possédé du logiciel. Tu n'as rien fait d'autre qu'acheter une licence d'exploitation, un droit d'écouter de la musique fixée sur un support précis, un droit d'utiliser un logiciel dans des conditions très précises. Mais les gens, parce qu'il y avait l'aspect tangible du support physique, le micro-sillon, le disque vinyle, le CD, la cassette, tout ce que tu veux, avaient l'impression de posséder quelque chose. Et le streaming remet en cause cette propriété, quelque part. Cette propriété fictive, mais cette propriété. Ils ont l'impression d'être dépossédés d'une propriété.
Propriété affective aussi quelque part.
Oui, parce qu'en plus, tu peux fixer, exactement, oui, tu peux fixer des souvenirs quelque part. Tu te souviens, j'ai encore la première cassette que j'ai achetée, le premier CD que j'ai acheté, enfin, tu te souviens, tu t'associes des moments et des mémoires avec ces supports.
Il y a trois stades, je pense, là-dedans. Évidemment, on n'a jamais vraiment possédé la musique dans le sens où on est toujours tributaire de l'outil pour l'écouter, rien que ça déjà. Mais tu as le CD à la base, donc vraiment l'objet physique, musique. Ensuite, tu as l'objet dématérialisé, musique, donc avec la Tune Store, ce genre de choses. Et après, même le piratage. Et après, tu as le streaming. Et c'est un stade encore d'abstraction, on va dire, plus évolué. Mais là, on perd effectivement. Je pense qu'en fait, on ressent pas cette limite, sauf au moment où on la ressent, quand il n'y a plus Internet, quand il n'y a plus ceci, cela. Et c'est ça qui bloque les gens, je pense.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, j'ai écrit hier un article sur le lossless et la spatialisation dans Apple Music. C'est peut-être un des articles du Club IGN qui a le plus grand nombre de commentaires, parce que enfin, tu sens que c'est vraiment un sujet, ça fait discuter les gens, quoi, la musique. Et vraiment, hein, quand Jobs disait, on s'attaque au marché de la musique parce que c'est vraiment là où on peut créer de l'émotion et c'est aussi là où on peut créer du lien avec le client, il avait raison, hein, ça provoque un truc, la musique. Hein. Mais c'est intéressant parce que tu vois aussi comment cette volonté de s'approprier quelque chose, cette volonté de. Ouais, t'es locataire, voilà, t'es propriétaire de rien sauf, quelque part, voilà, d'une voiture ou d'une chaîne Hi-Fi. Et tu vois comment, justement, ça s'est déporté sur le matériel. Et tu as des lecteurs hein, qui sont là dans. Ah oui, mais ma chaîne Hi-Fi. Ah oui, mais mon autoradio dans ma voiture. Ah oui, mais mon casque. Et comment ça marche avec tout ça? Et ils ont presque peur d'être dépossédés de ces outils-là. Quelque part que c'est que cette nouvelle offre rende leur possession obsolète. Et donc on leur dit non, mais votre propriété maintenant elle ne vaut plus rien. Quelque part, tu sais, presque une attaque personnelle, quoi. Je trouve ça assez fascinant psychologiquement.
Oui, c'est vraiment fascinant. Ça l'est, ça l'est. On imagine vraiment la major qui vient sous le lit prendre les boîtes de CD, et puis allez, voilà, pardon, c'est à nous, désolé. J'imagine qu'avec le temps, les générations passant, enfin, là, je suppose que ce qu'on appelle les jeunes, ce que nous sommes plus, Anthony,
Non, c'est ouais, c'est
c'est
fini.
fini depuis quelques années déjà, enfin, naissent dans le streaming, donc ne sont peut-être pas, en tout cas, portent leur affection et leur émotion sur des objets différents. Et donc le streaming ou la musique en tout cas n'est pas tout à fait le même, n'est pas cet objet-là où ce sera fixé, c'est peut-être autre chose, je sais pas quoi ce sera d'ailleurs.
Non, c'est pas le même rapport, et puis l'objet musique a plus la même cohérence. Enfin, toi et moi, on est suffisamment vieux pour avoir acheté des cassettes et des CD. Enfin, on achetait des albums, quoi. On achetait un objet fini, enfin, comme une pièce de théâtre, quoi.
Oui.
Un seul temps, un seul lieu.
Un seul fait accompli.
Merci. Et c'est plus le cas. Enfin, aujourd'hui, tu vas écouter un morceau, enfin, le succès des hippies, quoi. Tu vas écouter un morceau sur une plateforme de streaming, et puis tu vas aller regarder une vidéo sur YouTube. On voit maintenant des artistes qui font des concerts sur TikTok. Il y a une espèce de fragmentation, était plus forcément attaché à un objet
Ouais.
musical,
Ouais.
mais tu vas être attaché à un moment culturel.
Bah, toi, c'était intéressant comme point parce que est-ce qu'on n'est pas, j'allais dire justement, est-ce qu'on n'est pas attaché à une plateforme dans ces cas-là, mais même pas, parce que c'est très pervasif tout ça. T'écoutes de la musique sur YouTube maintenant comme tu l'écoutes sur Spotify ou Apple Music ou.
Je vais montrer à tous ceux qui nous écoutent que je suis vieux. Comment elle s'appelle, la gamine avec les cheveux colorés là,
Billie
qui est très à la mode en ce
Eilish.
moment?
Billie Eilish,
Merci.
ouais.
Pour moi, c'est pas une musicienne. Pour moi, c'est une expérience culturelle.
Ah, c'est très très bien résumé.
C'est-à-dire, elle définit un moment culturel. Elle est multiplateforme, cette fille. Très talentueuse par ailleurs, hein, pour le peu que j'en ai écouté. Mais qu'est-ce que c'est condescendant. Mais c'est un moment culturel, c'est un objet un peu éthéré. Elle est à la fois sur Spotify, sur Apple Music, il y a un documentaire Apple TV, elle a des millions de fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est un truc très vaporeux.
C'est une application en fait.
Presque. Et donc là, quelque part, tu te fiches de l'objet, tu te fiches d'avoir un CD, tu te fiches d'avoir. Ou alors si, tu vas acheter un t-shirt. Où tu vas garder le talon de ta place de concert. Je crois pas que ce soit moins bien que notre obsession pour les vinyles ou pour les CD ou pour les cassettes. Je crois que c'est différent, mais c'est vraiment intéressant comme manière de redéfinir le rapport à la musique.
Ouais.
Il n'y a plus un début, il n'y a plus une fin. Il y a une espèce de long continuum, mais on est dans un moment culturel. La tectonique, bordel, je me souvenais de ça il y a quelque temps. Le moment tectonique, tu
Tu
vois.
sais qu'on peut dater très précisément la fin de la tectonique en France. Enfin, d'ailleurs, c'était qu'en France, je crois.
Ah.
T'as la tectonique qui fait rage. T'as Laurie qui sort Je vais vite, extrait de l'album De l'or en moi, où elle danse la tectonique. Et un mois après, il n'y a plus rien. Moi, je dis, il n'y a pas de coïncidence, tu vois, il n'y a pas de coïncidence.
Non, c'est ça, c'est des
C'est des
moments.
moments.
Je devrais plus être surpris, mais je reste surpris par la virulence des réactions quand tu parles de musique. Et ça reste, hein, on parlait ces dernières semaines, toi et moi, des soucis de rapport entre l'humain et la machine, et le problème des interfaces. Bon, enfin, l'interface Apple Music, ou l'interface Spotify, les gens ont un avis, hein.
Franchement, Apple. Je t'adore, Apple. Je t'adore. Je suis totalement fanboy, tu vois, mais Apple Music, c'est quand même.
Mais pourtant, t'es suffisamment masochiste pour continuer à utiliser Apple Music.
Parce que j'ai cette espèce de croyance, et c'est vraiment de l'ordre de la croyance, que Apple Music est à sa place dans mon iPhone et sur mon Mac, parce que c'est une application native. Mais j'arrive pas à passer le cap que sur la musique, ce soit autre chose qu'iTunes, en fait. J'arrive pas à imaginer ça.
Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai fait mon deuil d'iTunes il y a des années.
Ouais. Toi, t'es plus audiophile quand même, déjà.
Oui, alors si par audiophile on entend le fait que j'ai encore un ampli et une platine CD et que je suis encore suffisamment stupide pour acheter des CD, oui, je suis audiophile. Les vrais audiophiles, vous mettez le nombre de guillemets que vous avez envie autour de ces mots,
On les salue.
ne me considèrent pas du tout comme un type audiophile parce que j'ai pas mis 10 ans de salaire dans ma chaîne IFI. Mais non, mais enfin oui, j'ai fait mon deuil d'iTunes il y a très longtemps. Ce qui m'a pas empêché de continuer à l'utiliser, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché avec Apple Music. Je suis repassé à Spotify il y a quelques mois après avoir utilisé Apple Music, notamment pour pouvoir écrire mon chapitre sur le sujet dans mon bouquin de l'an dernier. Je sais pas, il y a un truc qui me revient pas avec Apple Music. Mais notamment cette insistance à. En fait, ce que je trouve incroyable, j'utilise iTunes depuis le premier jour. J'utilise iTunes sur macOS 9, bordel. J'utilise l'iTunes Store depuis le premier jour. J'ai acheté des centaines d'albums sur iTunes Store. Apple sait très précisément ce que j'écoute comme musique. Mais c'est décennies, parce qu'on est à l'échelle de plusieurs décennies.
Ah oui, c'est un certain temps quand même. Oui.
Ces décennies de données ne sont pas exploitées par Apple Music. Et Apple Music, alors que j'écoute trois genres musicaux à 90% du temps, du jazz, du blues, du classique, Apple Music continue à vouloir me faire écouter de l'hip-hop, du rap, de la pop française, alors que j'ai une sainte horreur d'écouter des gens chanter en français. Et j'ai un Spotify, je me suis abonné à Spotify. En 72 heures, Spotify avait compris ce que j'écoutais et ne me montre que du jazz, du blues, du classique. Et de temps en temps, me met un petit machin. Tiens, regarde, il y a des passerelles entre le jazz et l'électronique. Tiens, regarde, ça c'est du jazz, mais avec un peu de rap au milieu, parce que c'est très à la mode en ce moment. Ou tiens, regarde, ça c'est du classique un peu pop. Donc, ils arrivent quand même à te faire sortir un peu des sentiers battus, mais ils proposent, quoi, ils imposent pas. Alors qu'Apple, parfois, c'est un peu lourd, quoi.
C'est même méga lourd, mais tout est méga lourd en fait. C'est non seulement l'insistance sur enfin, cette stupidité quand même, et ils insistent sur le côté la curation à la main. Enfin, j'y comprends rien parce que dans ce cas-là, il faut que enfin, ces gens sont manchots. Il y a une stupidité vraiment crasse dans ce que propose Apple Music entre guillemets sur mesure. Il y a une stupidité crasse dans l'interface, qui est quand même extrêmement lourde, qui est un truc web dans une application native et qui est pas du tout rapide, qui bug une fois sur trois, je dirais. Hein. Le nombre de fois où j'ai dû quitter Apple Music et la relancer pour lancer une musique, en fait, juste simplement, tu vois. Ça fout le bordel aussi, je sais pas si c'est égal pour toi, mais genre, tu prends un album qui est une compilation ou un best-of ou x, y chose, et ça te le dispatche en single, en fait, dans ta bibliothèque de manière miraculeuse, et du coup. Bah, tu te retrouves avec. Enfin, c'est abscon, tu vois, tu fais pas ça. Ça a pas de sens. Alors, je sais pas, enfin, je sais pas, je comprends pas.
Ce que je teste systématiquement avec tous les services qui font du matching, c'est. J'ai une petite obsession pour Kind of Blue de Miles Davis. J'ai une petite douzaine de versions différentes, qui sont évidemment toutes ripées en lossless. Et donc je les donne à manger aux services qui font du matching. Et le système d'Amazon, par exemple, fonctionne relativement bien et est capable en fait de reconnaître. J'ai l'impression qu'ils se servent de la base de données d'Amazon, la boutique. Est capable de bien reconnaître les différentes éditions et de les associer correctement. Apple, encore aujourd'hui, me fusionne plusieurs éditions ensemble et est absolument incapable de reconnaître ça, c'est un truc qui a été rippé du vinyle, et donc parce qu'il y a, voilà, il y a que le nom de piste originale, ça c'est la version RVB, ça c'est cette version ceci, cette version cela, la version mono, la version stéréo, le pack anniversaire, blablabla. Alors que toutes les métadonnées sont écrites à la main, j'y ai passé un temps fou.
C'est un
Et il me
massacre.
les écrase.
C'est un
Et
massacre. C'est un massacre, objectivement.
c'est la base du truc, quoi. Donc tu te dis, si lire et écrire des métadonnées, ils maîtrisent pas, comment tu voudrais qu'ils maîtrisent un algorithme de recommandation, quoi?
Mais outre l'imperfection d'Apple Music, ce qui m'ennuie énormément, c'est la lourdeur du discours derrière, quoi. Dans les deux sens. C'est-à-dire, une lourdeur sur le discours publicitaire. C'est genre, on est les meilleurs, voici les trucs, nanana, exclusif Apple Music, nanana. Et l'autre truc, c'est la lourdeur de la mise en avant, en fait, de certaines choses. On parlait de la subtilité du discours sur l'environnement, sur les questions sociales d'Apple. Mais Apple Music, c'est un, comme on dit en anglais, un dumpster fire, quoi. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment cette chose peut exister encore. Et en fait, dans ma tête, il y a une poupée vaudou d'EDQ quelque part, tu vois. Et de temps en temps, je mets des épingles imaginaires dedans parce que pour moi, c'est lui qui est responsable de tout ça, quoi. Je comprends pas ce qu'il fait encore chez Apple, objectivement. Je suis désolé pour lui, hein, mais non, ça, c'est pas possible. C'est pas du produit Apple, quoi.
Mais même les annonces de cette semaine, enfin, tu vois qu'il y a quand même une espèce de déconnexion. Enfin, c'est quand même
Ouais.
fou. Tu as Phil Schiller qui, en procès contre Epic, vient t'expliquer que c'est difficile de faire la part des choses entre. Que c'est difficile de séparer le chiffre d'affaires de l'App Store du chiffre d'affaires de l'activité d'Apple. En disant non, parce qu'en fait, nous, on se regroupe tous entre vice-président senior. Et quelque part, on peut pas. Si l'App Store ça marche, c'est aussi parce qu'on a développé des API pour iOS. Donc les développeurs, ils profitent des API d'iOS. Donc quelque part, bah, on rembourse les coûts du développement d'iOS. Donc tout un truc un peu compliqué comme ça pour t'expliquer qu'Apple, c'est une machine super bien huilée et que toutes les divisions communiquent et que c'est un seul grand organisme vivant, blablabla. Et le contre-exemple, c'est le même jour, Apple qui t'explique que non, leur service de streaming en lossless n'est pas lossless sur le casque à 600 balles qu'ils ont sorti il y a moins de 6 mois.
Mais quel est le fuck, quoi? Et à quel moment, tu vois, genre, à quel moment Tim Cook se dit que c'est ok, tu vois? Qu'est-ce qui se... En fait, il n'utilise pas Apple Music. C'est la seule explication que je vois.
Je le comprends techniquement, je l'explique au lecteur, c'est un casque Bluetooth, il n'y a aucun codec Bluetooth qui est lossless, contrairement à ce que Qualcomm et Sony racontent. Quand tu branches ton casque en filaire, Apple ne garantit pas que la conversion numérique, analogique, numérique soit bit perfect, donc ils sont pas suffisamment sûrs d'eux pour dire c'est du lossless, bit perfect. Ça, c'est tout à leur honneur. Mais mince, si c'est une seule boîte qui fonctionne comme un organisme vivant et qu'ils ont sorti le casque il y a 6 mois, tu t'assures il y a 6 mois que le casque il sera bit perfect quand le service lossless va être là. Service lossless, ça fait quand même 10 ans qu'ils en parlent, donc enfin. En interne. Et ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ont récupéré les masters en 24 bits pour faire une sortie lossless. Donc bon, c'est pas nouveau, quoi, ils le savaient. Donc non, c'est son petit truc dans son coin qui fonctionne. Enfin, c'était comme l'iTunes Store, hein, où l'iTunes Store, c'était historiquement, c'est un Presta qui était dans le Delaware, un truc comme ça, qui faisait toute l'archi pour Apple. Et Apple n'avait pas la main sur l'archi.
Ah, c'est chaud.
Et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est développé dans son coin. Alors, je sais pas si c'est à Cupertino ou à Culver City chez Beats. Mais c'est développé dans son coin et ils ont les infos qu'à la fin, quoi. Et c'est quand même, pour un truc qui est à ce point important, qui déclenche à ce... qui est historiquement associé à Apple, qui encore aujourd'hui est super important parce que c'est quand même, ils ont une petite activité à quelques milliards de dollars autour des casques et des écouteurs, c'est juste le numéro un mondial du domaine. Ils ont juste redéfini 3 ou 4 fois le marché de l'audio domestique et ils sont toujours un foutu de faire un truc qui tient debout, quoi. Enfin. Ils ont redéfini le marché malgré eux quelque part, quoi.
Et c'est ça, j'ai l'impression de voir Microsoft en fait. Non, mais je te jure,
Mais ce qui
c'est
prouve à
très.
quel point en face, c'est encore pire, quoi.
Oui, accessoirement c'est vrai. Mais c'est vraiment une énigme pour moi, Apple Music. Encore éventuellement, tu vois, à l'époque de l'iTunes Store, bon, il y avait cette tentative à un moment qui n'a pas duré très longtemps. Tu te souviens des iTunes LP?
Oui, qui était très bien.
C'était intéressant ça. On voyait un amour de
Oui.
la musique, tu vois. On voyait une volonté d'essayer de retranscrire le sentiment du vinyle, de l'analogique et de
Avec le
l'expérience.
format de l'iPad, c'était impeccable.
Exact, c'était très sympa. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que bon, X raison, pourquoi pas, d'accord. Aujourd'hui, y a pas d'amour de la musique en fait. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Je le ressens pas. Y a pas de moment magique en fait avec Apple Music. Avec Spotify, beaucoup plus.
Ils essayent avec la spatialisation. Parce qu'en fait, comme je l'explique dans mon papier, les catalogues ont été, enfin les contrats et les accords de catalogue ont été réécrits. Notamment parce que Spotify et Apple ont poussé, et donc en fait maintenant le lossless c'est le truc de base. Donc tout le monde va proposer du lossless. Donc ce ne sera pas un argument différenciant pour Apple. L'argument différenciant ça va être la spatialisation. Même si Amazon fait des trucs dans son coin, et j'ai aucun doute que Spotify en fera aussi dans son coin, et que Tidal fait aussi du Dolby Atmos, mais Apple est comme cul et chemise avec Dolby, ils essayent de faire des trucs et ça marche. Hein, je veux dire, je me suis encore fait avoir la dernière fois dans Disney+ en mettant mes AirPods Pro et je comprenais pas d'où le son venait. J'avais l'impression que mes écouteurs étaient pas connectés. Le truc, il marche. Hein. Mais enfin, ça fait aussi 30 ou 40 ans qu'on essaie de faire de la quadriphonie et du 5.1, du 7.1 et du 40 000 points et que personne n'est jamais arrivé. Donc je demande à voir. Mais potentiellement, oui, ils essayent de le faire de manière un peu plus subtile que les iTunes LP où c'était joli, mais ça demandait quand même un peu d'investissement.
Un peu.
Donc je sais pas, il va falloir voir avec la spécialisation. Ça peut être intéressant, je sais pas trop comment, et puis j'ai quand même un peu l'impression que ça va être perdu. Enfin, quand t'es dehors avec le bruit des voitures et tes AirPods, bon, spécialisation ou pas, lossless ou pas, on s'en fiche un peu, mais...
C'est ça aussi, c'est que c'est quand même une expérience, je pense, qui est faite pour l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je vois de mon point de vue du vieux con qui n'a pas encore testé la chose, tu vois. Et l'autre truc, c'est que je suis pas certain d'avoir envie d'avoir cette sensation ou faire l'extérieur, comme tu disais, en traversant la route, tout ça. Enfin, je sais pas. T'as pas envie d'être perdu dans la musique quand t'es dans la rue, non? Je sais pas. Je sais pas. Enfin, à voir, comme tu dis.
Disons que j'ai pas envie de me faire écraser, donc j'ai tendance à mettre le mot de transparence et donc t'entends les voitures.
Voilà, c'est ça.
Apple Music, au final, c'est le seul service d'Apple que j'utilise pas. Je me suis même remis sur photo parce que marre de payer un abonnement Lightroom. J'utilise iCloud, j'utilise iCloud Drive parce que c'est quand même plus facile. On pourrait parler des défauts d'iCloud Drive, mais bon.
C'est rien par rapport à Apple Music, c'est rien.
Mais Apple Music, non. Hein. C'est vraiment le service qui, pour moi, n'est pas sticky.
Ouais.
Voilà, j'utilise Spotify un peu par défaut, mais...
Je vais passer dessus, je pense, mais ouais, ça m'ennuie beaucoup. J'aurais bien aimé que ça... J'aurais bien aimé l'aimer, en fait.
Spotify n'est pas parfait, hein. Faut pas abuser non plus, hein. Mais bon, ils essayent de faire des choses. L'interface change assez régulièrement. Tu vois qu'ils testent quand même des trucs et qu'ils essayent de voir ce qui marche, ce qui marche pas, alors que Apple Music... Voilà.
J'ai une défense de Spotify aussi, côté artiste cette fois-ci. Pour l'expérience, je me suis amusé à composer des petites berceuses au piano. Vraiment rien de bien compliqué. Et,
qui sont très bien.
Oh, c'est gentil. Oh là là, je m'y attendais pas.
Le meilleur compliment que je puisse te faire, c'est que je me suis endormi en les écoutant.
C'est vrai ? Malgré l'absence de mix et tout ? Ah ouais, je suis extrêmement flatté, merci beaucoup. Ou alors t'es très fatigué, je sais pas.
Aussi.
Mais je prends quand même. Et donc je les ai mises, j'ai utilisé DistroKid, un service de, en gros, de, je sais pas trop comment ça s'appelle, une sorte de courtier de la musique en ligne. Et j'ai mis ça du coup sur Amazon, Apple Music, Spotify, tout ce que tu veux. Je me suis dit, bah, je vais quand même récupérer l'accès juste pour Apple Music et Spotify. Pour avoir la possibilité de mettre ma propre image de profil, ce genre de choses, quoi. J'ai donc téléchargé les deux applications, donc Spotify for Artists et Apple Music for Artists. Spotify for Artists, j'ai demandé l'accès. Le lendemain, je l'ai eu. Non, le jour même, je l'ai eu. Et j'ai pu mettre en ligne une photo, tout ça. C'était vraiment rapide. En 2 jours, c'était réglé, quoi. Apple Music, ils ont mis 2 semaines à m'accorder les droits d'accès. 1 semaine à valider la photo. Enfin, c'était extrêmement pénible, en fait. Une autre chose aussi pour les côté artistes, c'est que Spotify a tout un service sur le côté qui s'appelle Sound Better, qui sert à, en gros, optimiser ton son. Tu vois, tu peux faire appel à des ingénieurs du son, à des mixeurs, à des mastereurs, je sais pas si c'est le terme, mais en gros, à beaucoup de gens différents, même des chanteurs, des compositeurs et tout. Et c'est une sorte d'appel d'offres à chaque fois, et t'as des gens avec leur CV et tout, enfin, c'est très bien fait. Apple Music, y a rien, quoi. Rien du tout.
En contrepartie, Apple paye un peu mieux que Spotify.
En contrepartie, Apple paye effectivement un peu mieux que Spotify, mais bon.
Mais ce que tu disais sur les accès, c'est intéressant, parce que j'ai eu la même expérience, mais pour le coup pour le podcast, ce podcast, où Apple a lancé sa nouvelle plateforme de podcasting au moment même où nous, on se décidait à mettre un micro entre nous deux et à enregistrer nos conversations plutôt que les avoir et les laisser disparaître. Et Spotify donc, a aussi une plateforme pour les podcasteurs. J'ai eu l'accès en un quart d'heure. Pocket Cast, ça a été quasiment automatique. Apple, qui pourtant est historiquement la reine du podcast, et ce podcast doit être mon 15e ou 16e podcast en 15 ans, a mis 3 jours pour me filer les accès, et aujourd'hui encore, dans la nouvelle plateforme, le podcast n'apparaît pas. Parce que quand ils ont changé de plateforme, ils n'ont pas migré tout le catalogue, et donc notre podcast n'a pas été migré, et un certain Anthony... de l'équipe Apple Podcast, m'a expliqué qu'ils étaient vraiment désolés, qu'il y avait des milliers de podcasts qui étaient concernés, dont le nôtre, et que ça prendrait plusieurs semaines à plusieurs mois.
Et on parle de la boîte qui a créé le mot podcast.
Ah ah.
Non, c'est ok.
Je crois que c'est assez symptomatique de leur approche. Je suis pas in love avec Spotify, hein, mais ce que je vois, c'est que voilà, là, j'ouvre Spotify... Il me dit bonsoir parce qu'il sait qu'on est le soir. Il me propose mon radar des sorties et mes découvertes de la semaine et de reprendre le podcast que j'ai commencé à écouter. Il me propose la dernière sortie d'un de mes artistes favoris, ce qu'Apple n'a jamais été capable de me faire. Il me montre mes anciens favoris. Il me montre les daily mix qui sont incroyables de précision. C'est limite effrayant. Et ensuite, il me propose quasiment que du jazz ou... Ouais, ou des trucs un peu modifiés, genre voilà, du jazz un peu pop, des trucs comme ça. Et quand j'écrivais sur les bulles de l'Internet, contrairement à ma contrepartie américaine qui parlait des bulles comme d'un enfermement, moi je parlais des bulles comme d'une ouverture, on fait grossir les bulles. Et donc j'aime pas les bulles qui enferment, hein, mais, et donc je devrais pas être très content que Spotify quelque part m'enferme, mais ils sont suffisamment intelligents pour injecter de temps en temps des petits trucs qui m'ouvrent les écouteilles, quoi. Tiens, regarde. Ça, c'est du jazz, mais avec un peu de R&B. Ça, c'est... Ou ça, non, tiens, regarde. Ça, c'est de la pop française, mais de la pop un peu jazzifiante. Tu vois, ils sont quand même... C'est quand même un peu plus subtil, quoi. Tu as quand même l'impression... Et je sais qu'il y a très, très peu d'humains chez Spotify et que tout ça repose sur beaucoup d'algorithmes, notamment des algorithmes qu'ils ont achetés. Mais enfin, à la fin, ça donne l'impression que c'est plus humain et qu'il y a des gens derrière qui aiment la musique et qui veulent te faire écouter des trucs.
Bon, la seule personne que je vois derrière d'humaine, derrière Apple Music, c'est Jimmy Iovine, quoi. Iovine, je sais pas comment on dit.
Alors qu'il est plus là, je crois.
Il est plus là, mais il a été là pendant un certain temps, et puis... Ah, quel répugnant personnage.